Bonjour, samedi 3 août, en toute saison, hiver comme été, nous sommes avec vous pour faire un point sur 7 jours d'actualité, grâce bien sûr au reportage de la rédaction.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Cette semaine, destination la Syrie, Hong Kong, Moscou, Nouakchott, Kinshasa aussi. Et en toute saison, hiver comme été, nous sommes en compagnie de notre confrère et néanmoins ami Yann Mince, spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives Économiques. Il est notre invité aujourd'hui. Nous ferons également un point sur la situation politique en République démocratique du Congo, plus de 6 mois après l'élection de Félix Tshisekedi à la présidence. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons Florence Maurice, notre correspondante à Kinshasa, spécialiste donc de la RDC. Une semaine d'actualité à retrouver aussi sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio www.rfi.fr et sur l'appli RFI Pure Radio. Bonjour Yann Mince.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver à ce micro. Bon pied, bon oeil.
Écoutez, je reviens de vacances, donc logiquement je suis en bonne santé.
Et l'actualité a continué à dérouler son flot. Qu'est-ce qui vous a intéressé cette semaine en particulier ?
Ce qui m'a intéressé cette semaine, c'est de voir que le pouvoir russe a l'air un peu désemparé face aux manifestations. Visiblement, Vladimir Poutine avait l'habitude jusque-là d'avoir dans l'opinion publique un soutien assez fort. J'ai l'impression que, je dis pas que le soutien s'effrite, parce que quand on voit les taux de popularité, c'est encore très élevé, mais il y a quand même des craquements de différents endroits. Et en plus, quand ça se passe à Moscou, c'est visible parce que les médias étrangers y sont aussi.
Ah, nous allons bien sûr en reparler dans un instant, Yann, mais partons tout de suite pour le Brésil, figurez-vous. Lundi, le président Bolsonaro devait en effet rencontrer le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. À la dernière minute, il a préféré aller chez le coiffeur à São Paulo, Martin Bernard.
La France a choisi de ne pas broncher officiellement, tout au moins après cette provocation de Jair Bolsonaro. Et pourtant, la terre entière a relevé cette fausse note tout juste un mois après la signature de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, un accord au sein duquel Paris et Brasilia jouent un rôle de premier plan. Simple rendez-vous manqué ou humiliation, cet épisode insolite a eu une énorme répercussion autour du monde et pourrait finalement se retourner contre le Brésil, selon la presse locale. Car si un accord de principe a bien été signé, les détails de cet accord doivent encore être négociés et la France, déjà très critique envers Jair Bolsonaro et son mépris envers l'environnement et les droits de l'homme, pourrait se montrer plus exigeante sur les points sensibles comme l'agriculture. Jean-Yves Le Drian n'a finalement pas été reçu par Jair Bolsonaro, ni par le vice-président, le général Morao, mais il a quand même profité de son périple de 3 jours au Brésil pour donner un coup de pouce aux investisseurs français qui parient sur les réformes économiques engagées par le gouvernement Bolsonaro.
Yann, comment dit-on poser un lapin en portugais ?
Ah, malheureusement, mon portugais n'est pas assez bon pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Jean-Yves Le Drian, quand il était ministre de la Défense, avant d'être ministre des Affaires étrangères, était probablement mieux reçu au Brésil qu'il ne l'est aujourd'hui. Par ailleurs, il y a une autre chose qui me frappe, c'est que le Brésil et la France ont une frontière commune, la Guyane, oui. Qui a eu ces
c'est
derniers jours...
C'est toujours bon de rappeler ce genre de choses, voilà. Ça fait son effet.
Qui a eu ces derniers jours des événements assez graves dans cette région, où un chef coutumier a été assassiné visiblement par des chercheurs d'or. Il y a eu, je crois, des manifestations de soutien en Guyane. Donc, il y a tout un contexte aussi régional et pas seulement celui des très importants accords commerciaux et sur le climat qui pèse sur la relation franco-brésilienne. Bon, effectivement, je pense que c'était un geste symbolique de la part de Bolsonaro, puisque quand même Jean-Yves Le Drian a été reçu par son homologue. Donc, c'est pas complètement c'est pas une rupture là, c'est diplomatique.
Mais juste dans le monde diplomatique, c'était une gifle.
C'est une gifle à la France. C'est une espèce de coup de griffe un peu stupide, un peu et très symbolique, parce que ça va pas changer grand-chose sur le fond.
Alors partons maintenant pour Moscou. Vous en parliez il y a un instant, Yann Mince, après l'arrestation d'un millier de personnes, un millier, lors de manifestations samedi dernier contre l'interdiction des candidats non officiels à la mairie de Moscou et l'emprisonnement d'Alexei Navalny. Nous en parlions la semaine dernière. Alexei Navalny qui en outre aurait été empoisonné à Moscou lundi. Daniel Valo.
Alexeï Navalny retrace de façon très précise les 24 heures qui ont précédé son hospitalisation. D'abord, sa promenade avec 5 autres détenus qui remarquent une rougeur sur son cou. Ensuite, durant la nuit, des sensations de piqûres et de brûlures au visage qui le réveillent à plusieurs reprises. L'idée m'est alors venue, peut-être m'ont-ils empoisonné, écrit l'opposant. Le lendemain, les docteurs de l'hôpital où il est transféré concluent à une réaction allergique, mais Alexeï Navalny s'en étonne. Jamais je n'ai fait d'allergie, écrit-il, de quelque façon que ce soit. Comme son avocat et son médecin, l'opposant se demande donc si une substance chimique a pu être introduite en son absence dans sa cellule et il demande à pouvoir accéder aux images de vidéosurveillance. En conclusion, Alexeï Navalny pose la question, les autorités russes sont-elles assez stupides pour essayer de m'empoisonner dans un lieu où elles seraient forcément suspectées ? Il est tentant de chercher une rationalité ou un sens caché à leurs actions, répond de lui-même Alexeï Navalny, mais en réalité, écrit-il, ils sont en colère. Est tout simplement stupide.
Destination Hong Kong maintenant avec de nouveaux heurts. Des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie ont bravé dimanche l'interdiction des autorités en marchant dans les rues. Les quelques 200 manifestants qui se sont approchés du bureau de liaison chinois, le symbole par excellence de la présence de Pékin dans le territoire, se sont heurtés aux policiers anti-émeutes. Pour le moment, Pékin ne bouge pas. Christophe Paget.
Le gouvernement central soutient fermement Carrie Lam à la tête du gouvernement de Hong Kong. C'est ce qu'a répété le porte-parole du bureau des affaires de Hong Kong et de Macao. Pour Pékin, la priorité des autorités hongkongaises est maintenant de punir les manifestants violents, restaurer l'ordre social et maintenir de bonnes conditions pour les affaires, a souligné Yang Guang, affirmant que les violences avaient eu un effet très négatif sur la prospérité et la stabilité de Hong Kong, des violences qui tutoient les limites du principe « un pays, deux systèmes ». La question aujourd'hui, c'est de savoir si l'armée chinoise pourrait intervenir. Yang Guang a botté en touche, affirmant juste que la loi fondamentale était très claire sur ce point. Elle prévoit une intervention de l'armée si les autorités de Hong Kong en font la demande, tout en faisant les louanges de la police hongkongaise. Une police de plus en plus critiquée par les manifestants qui dénoncent une utilisation excessive de la force et le recours à des gangs criminels. Le mouvement de protestation est né de l'opposition à un projet d'extradition des suspects vers la Chine continentale, un projet aujourd'hui suspendu. Les manifestants appellent maintenant à des réformes démocratiques et la fin de l'érosion des libertés dont jouit le territoire semi-autonome.
Sachez aussi que des dizaines de manifestants pro-démocratie ont été présentés mercredi devant la justice de Hong Kong après leur inculpation pour participation à une émeute dans l'ancienne colonie britannique. Yann, on va commencer avec ces événements, cette contestation qui dure. Il faut savoir qu'hier, vendredi, des milliers de fonctionnaires se sont rassemblés à leur tour sur le territoire pour protester.
Il y a de plus en plus de gens et de plus en plus de gens qui sont extérieurs au cercle, au premier cercle des manifestants qui étaient surtout des jeunes. On voit maintenant des gens qui sont d'autres catégories d'âge ou d'autres catégories socioprofessionnelles que les étudiants qui étaient au départ du mouvement. Je pense qu'il faut regarder les événements de Hong Kong en ayant aussi Taïwan en tête. Ce que je veux dire, c'est que Taïwan, c'est encore beaucoup plus important à terme que Hong Kong. Donc pour Pékin, si la répression est trop forte à Hong Kong, ça veut dire que ça va empêcher l'opinion taïwanaise de prôner un rapprochement à terme. Je suis pas sûr qu'elle en ait très envie, mais en tout cas, ça risquerait de bloquer encore la perspective d'un rapprochement. Et d'un autre côté, on le voit, il y a eu des arrestations ces jours-ci de Hongkongais qui sont partisans de l'indépendance, pas seulement du respect du système actuel, mais de l'indépendance. Et ça, pour moi, c'est une ligne rouge pour Pékin, je crois. Jamais Pékin n'acceptera l'indépendance proclamée ni de Hong Kong ni de Taïwan. Donc effectivement, la tentation de Pékin, c'est d'empêcher ça. Je ne crois pas personnellement, en dépit du fait que l'armée chinoise a diffusé une vidéo ces jours-ci sur des exercices anti-émeutes. Je crois pas qu'ils aient envie d'intervenir. Ce serait trop intrusif. Et justement, ça aurait fait cet effet que je disais sur les Taïwanais. Et par ailleurs, quand même, beaucoup de dirigeants chinois ont des intérêts économiques importants, personnels, qui passent par Hong Kong, puisque Hong Kong est quand même une place financière importante aussi pour les dirigeants chinois à titre personnel. Donc, je suis pas sûr qu'ils aient envie de trop jouer avec la banque.
Mais Pékin l'administration communiste peut-elle continuer à supporter cette contestation récurrente qui dure? Et qui grossit, semble-t-il.
Non, évidemment, elle peut pas supporter cette contestation durable. Celle qu'elle peut faire à terme, c'est faire sauter le fusible, c'est-à-dire la chef du gouvernement de Hong Kong, Carrie Lam. À mon avis, c'est la plus menacée dans cette affaire. Si elle n'est pas capable de contenir le mouvement, elle crispe tellement la contestation qu'elle devient un problème en soi, peut-être que Pékin finira par la lâcher. C'est pas le cas jusqu'à maintenant.
La démocratie, selon Vladimir Poutine.
Démocratie, selon Vladimir Poutine, c'est Vladimir Poutine au pouvoir, réélu avec une très confortable majorité. Le problème de Vladimir Poutine, c'est qu'en principe, principe, il est au bout de son deuxième mandat. Il doit finir en 2024. Je pense que il y a de plus en plus de nervosité dans le système russe à cause de cette perspective. Probablement aussi, la compétition interne va commencer à se développer. Et puis, il y a des contestations en Russie. Alors, elles ne sont pas toutes de nature strictement partisane. Là, ce qu'on voit à Moscou, ce sont effectivement des gens qui veulent pouvoir se présenter comme candidats pour les élections municipales à Moscou. Ce qu'on a vu dans d'autres villes, c'est des contestations plus socio-économiques, par exemple, sur ces affaires de déchets en Sibérie, de transfert de déchets.
Et contestations liées aussi au climat social. On se souvient que pendant la Coupe du Monde, il y a juste un an, il y avait pendant la Coupe du Monde des manifestations.
Et puis les manifestations de l'été dernier, je crois, contre la réforme des retraites. Donc il y a régulièrement des contestations et il y en aura probablement aussi, en tout cas de l'insatisfaction de la population russe à cause de la lutte contre les incendies en Sibérie qui a beaucoup traîné ces jours-ci et où finalement Vladimir Poutine a impliqué les forces de sécurité alors que jusque-là il laissait faire.
La Russie qui a déclaré hier, vendredi, la mort du traité de désarmement nucléaire appelé INF à la suite du renoncement des États-Unis à ce traité.
Renoncement des États-Unis, il faut le rappeler quand même, qui est lié au fait que la Russie a développé un nouveau missile qui viole ce traité. Donc ce n'est pas une décision complètement unilatérale et pour une fois, rappelons-le, Barack Obama et Donald Trump étaient d'accord sur ce constat, puisque Barack Obama avait déjà dit que la Russie violait le traité, mais simplement sous la pression des Européens. Il n'avait pas décidé de retirer les États-Unis, ce que Donald Trump, lui, a fait. Maintenant, la violation initiale, elle vient quand même visiblement de la Russie, qui a développé un modèle de missile qui est incompatible avec le traité.
Sept jours dans le monde.
Et nous allons parler de la Syrie maintenant, Yann Mince. La Syrie qui dit accepter avec condition un cessez-le-feu dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest du pays. Une zone, on le sait, dominée par les djihadistes et pilonnée depuis fin avril par le régime de Damas et son allié russe d'ailleurs. Cette semaine, vous avez pu écouter sur notre antenne des reportages dans nos journaux, notamment un reportage dans un camp de rétention de familles de djihadistes dans le Kurdistan syrien, précisément. Reportage signé Noé Pignède, comme celui-ci.
Au milieu des puits de pétrole, quelques centaines de tentes colorées, à l'intérieur des familles de 48 nationalités. Le camp de Roj accueille des femmes et des enfants qui ont fui le califat de Daesh.
Bonjour.
Samira est l'une d'entre elles, voile violet sur la tête, elle tient son fils de 3 ans dans les bras. Depuis un an et demi, cette Belge est prisonnière des forces kurdes.
Il y a des gardes, il y a des descentes la nuit, c'est un petit Guantanamo. En fait, on n'a pas de vie. On n'a pas d'avenir, on n'a pas de futur. On est effrayé aussi par rapport aux maladies. Tuberculose, coqueluche, typhus. Et les soins ne sont pas appropriés. Il y a des enfants, des femmes qui sont morts. En hiver, c'est les tentes qui brûlent. Le dernier incendie, c'était 3 enfants qui sont décédés. Et la maman, elle est encore en vie, mais elle est complètement brûlée. Si j'avais pas l'islam, je serais tombée en dépression.
Des conditions de vie très rudes, même les rations de nourriture sont distribuées au compte-gouttes faute de moyens. Mais comme beaucoup de résidentes, Samira peut compter sur l'aide de ses proches.
En fait, nos familles sont interdites d'envoyer de l'argent. Donc soit ils prennent le risque de poursuite judiciaire et ils envoient, soit on meurt de faim. Il faut trouver quelqu'un en Turquie. Votre famille envoie cette personne en Turquie qui dépose l'argent dans un bureau turc. Et donc, il procède au transfert d'argent.
Quelques centaines d'euros qui permettent à Samira et à son fils de survivre. Comme elle, 80 000 femmes et enfants de djihadistes sont toujours prisonniers des forces kurdes.
Alors, Yann, à propos de la Syrie, il faut rappeler d'abord que la guerre n'est pas tout à fait terminée.
Et on ne s'arrête pas, non, on ne s'arrête pas. Dans la province d'Idlib, il y a eu des bombardements dans la semaine extrêmement violents, et y compris contre des structures hospitalières, comme malheureusement le régime syrien et ses alliés en ont l'habitude.
Et ce reportage de Noé Pignède met à nouveau l'attention sur le sort de ces familles, de ces femmes de djihadistes.
Dans les reportages que Noé Pignède a fait, il y en a certains qui sont dans le camp dont on vient d'entendre, mais il y en a d'autres dans un camp beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile, oui, qui s'appelle Al-Hol, où il y a à la fois des gens qui sont des djihadistes d'origine, enfin des familles de djihadistes d'origine syrienne, irakienne, et puis des gens qui sont d'origine plutôt turque, occidentale, et qui sont d'ailleurs séparés dans le camp avec des traitements assez différents. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué pour les conditions de vie des Syriens et des Irakiens. Et la question, c'est de savoir effectivement si les pays occidentaux vont vont accepter de reprendre ou pas ces djihadistes. On voit bien que la France, de ce point de vue-là, traîne la patte. On voit pas très bien pourquoi ce serait les pays de la région qui devraient supporter ce fardeau. D'autant que
c'est pourtant ce que veut la France, apparemment. Non.
La France,
en tout cas pour l'Irak.
La France voudrait bien, je pense, reprendre les enfants, mais pas les femmes, pas les mères. Ce qui évidemment est extrêmement compliqué. Et ça me paraît difficile qu'à terme, on n'autorise pas le retour d'une partie importante. Mais évidemment, ça ne résout pas le problème de la radicalisation de ces femmes, parce qu'effectivement, certaines d'entre elles sont restées radicales, voire se sont, d'après ce que disait Noé Pignet dans ses reportages, encore radicalisées même plus avant dans le camp, probablement en partie les conditions dans lesquelles elles sont
détenues. J'ai entendu l'une de ces femmes qui dit « Heureusement qu'il y a l'islam, sinon je
serais tombée en dépression ». Mais ouais. Je pense qu'effectivement, c'est un recours pour toute mère qui perd son enfant dans les circonstances dans lesquelles certaines de ces femmes ont perdu leurs enfants. La religion, probablement, est un recours. Mais...
Et si nous partions au Royaume-Uni, Yann, encore uni malgré les risques du Brexit, Boris Johnson, le nouveau Premier ministre, a réservé sa première visite à l'Écosse, foncièrement hostile à ce Brexit, à Londres, Marina Daras.
Pour la première ministre écossaise, Boris Johnson entraîne le pays vers un désastre. Elle a rappelé au nouveau Premier ministre que les Écossais n'ont pas voté pour sortir de l'UE et encore moins pour en sortir de manière chaotique.
Il dit qu'il préférait conclure un accord, mais en réalité, il cherche très activement à sortir de l'UE sans accord parce que c'est dans la logique de la ligne dure qu'il a adoptée et je pense que c'est extrêmement dangereux pour l'Écosse et en réalité pour l'ensemble du Royaume-Uni. Nous savons, d'après le travail que nous avons accompli, l'impact que cela aurait sur presque tous les aspects de la société écossaise. Et je pense qu'il nous faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'en empêcher.
Et en cas de no deal, Nicola Sturgeon n'hésitera certainement pas longtemps avant de demander un second référendum d'indépendance si le Royaume-Uni force l'Écosse à sortir de l'UE.
Nous avons certainement discuté de l'indépendance de l'Écosse et j'ai dit très clairement que je pensais que c'était au peuple écossais et non à lui ou à moi de décider de notre avenir. Que le changement de circonstances dû au référendum sur le Brexit oblige l'Écosse à redécider si elle veut devenir un pays indépendant. Il est clair que Boris Johnson a un point de vue différent à ce propos, mais je lui ai clairement fait savoir que ce n'était pas démocratique de priver le peuple écossais de son droit de choisir.
Pour Sturgeon, l'Écosse a été ignorée par Westminster depuis le vote sur l'Europe et se retrouve désormais entraîné dans un scénario catastrophe voué à l'échec.
Boris Johnson est allé ensuite en Irlande du Nord. Le nouveau Premier ministre britannique a subi d'autre part jeudi son premier revers électoral, ça n'a pas tardé, avec la défaite de son parti lors d'une élection partielle au Pays de Galles, élection qui a ramené sa majorité parlementaire à seulement une voix. Yann, va-t-on vers un royaume désuni ?
Ce qui est sûr, c'est qu'au moment du référendum sur le Brexit, l'Irlande du Nord a voté contre, l'Écosse a voté contre. Le Pays de Galles, en revanche, a voté pour, mais visiblement, la majorité des Gallois sont favorables à un accord. Donc, une sortie avec un accord et non pas à un no deal. Je ne sais pas très bien, personnellement, si Boris Johnson veut un no deal ou si c'est simplement une façon pour lui d'obtenir des élections. Ce que je veux dire, c'est qu'une partie importante des parlementaires britanniques ont dit qu'ils feraient tout ce qu'ils pouvaient pour s'opposer à un no deal. Dans ce cas-là, la seule sortie possible, ce sont des élections. Et moi, je pense que l'optique de Boris Johnson, ce sont plutôt les élections législatives. Il a bien noté qu'aux européennes, le Brexit Party, le parti de Nigel Farage, qui est donc un Brexiteur dur, lui, avait remporté le plus grand nombre de suffrages, donc 31% de tête, bien avant les partis conservateurs. Donc, il faut, s'il y a des élections, que Boris Johnson ramène ces électeurs-là vers le parti conservateur. À mon sens, c'est ça son objectif. Je ne suis pas sûr que son objectif soit très européen, mais je dois dire que de l'autre côté, Corbyn, le leader travailliste, est à peu près dans les mêmes dispositions d'esprit. Corbyn n'a jamais été pro-européen. C'est un pro-européen, du bout des lèvres. Il a plutôt été contre. Leur objectif à l'un et l'autre, je crois, ce sont des élections législatives anticipées qu'ils espèrent tous les deux gagner, mais ce n'est pas du tout certain.
Boris Johnson, qui a présenté ces derniers jours son programme, qui est un programme de transformation complète du Royaume-Uni, précisément, en plateforme de libre-échange dérégulation à tous les niveaux.
De ce point de vue-là, pour ce qui est du libre-échange, il a pris un revers cette semaine parce que du côté des États-Unis, avec lesquels Boris Johnson, en cas de sortie, voudrait négocier un accord de libre-échange, eh bien, tout d'un coup, les Irlandais des États-Unis ont fait savoir, les gens d'origine irlandaise des États-Unis, qui sont 10% de la population, je crois, et bon, très important la classe politique, ont fait savoir qu'ils bloqueraient tout accord de libre-échange avec le Royaume-Uni si les accords du Vendredi Saint, les accords de paix en Irlande, étaient mis en cause finissent par une sortie trop violente du Royaume-Uni de l'Union. Donc tout ça est un peu imbriqué et il n'est pas du tout sûr que Boris Johnson a les moyens politiques, y compris par rapport à ses partenaires américains, d'obtenir ce qu'il veut.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons parler de l'actualité française avec un titre principal, Yann Main, cette semaine. La découverte du corps de Steve Maya Canisso dans la Loire, à Nantes, c'était lundi. De nombreux appels ont été diffusés sur les réseaux sociaux appelant à rendre hommage à ce jeune homme disparu au moment d'une intervention critiquée pour le moins des forces de l'ordre le soir de la fête de la musique. C'était le 21 juin dernier à Nantes. Reportage de Maxime Jaglin.
On est touché par ce qui s'est passé, et c'est comme si on le connaissait, quoi. On l'aime ce garçon, mais il est mort, voilà. Et on est en colère.
Debout dans la fontaine royale, Eric et ses amis colorent en rouge l'eau qui jaillit des statues. Quelques heures seulement après la découverte du corps de Steve Maya Canisso, ils multiplient toujours les actions symboliques pour demander justice et vérité.
C'est écrit en grand « Où est Steve ?» Maintenant, on voit que le mot « Steve », le reste a été peint en noir, et les slogans vont changer. Qui a tué Steve ? Justice pour Steve, et on va en trouver plusieurs. On va pas lâcher l'affaire, on ne tombe pas et on ne meurt pas à 24 ans pendant une fête de la musique. Pas ici en tout cas, pas en France quoi.
Au milieu des touristes, hagards, les Nantais eux aussi s'arrêtent devant la scène avec encore de très nombreuses questions en tête.
Est-ce que la charge était inutile ? Est-ce qu'elle était exagérée ? On n'en sait rien en fait pour l'instant.
Après, quoi. Bah pour moi elle était quand même inutile, créer un mouvement de panique comme ça près de la Loire. Un endroit, voilà, ils savent que c'est dangereux cet endroit-là. Clairement, c'était pas la bonne décision. Je sais pas s'il faut absolument des responsables. Moi, pour moi, c'est plus à l'avenir, arrêter ça.
Plus jamais cela. C'est aussi le message adressé par les proches de Steve. Ils se sont donné rendez-vous sur les bords de Loire pour lui dire, ensemble, un dernier adieu.
Alors, outre son importance sur le plan humain, cette disparition pourrait ne pas être sans conséquences politiques pour le gouvernement. D'ailleurs, Édouard Philippe, le Premier ministre, a pris la parole officiellement flanqué de son ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Quand on a appris mardi que le corps repêché dans la Loire à Nantes était celui de Steve Maya Canisso, Olivier Charman.
Pour le Premier ministre Édouard Philippe, le rapport de la police des polices n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Ce rapport, dit le chef du gouvernement, met en évidence des difficultés liées à l'intervention consécutive à des jets de projectiles en direction des policiers qui a conduit à l'emploi de gaz lacrymogène. L'enchaînement des faits reste confus. Édouard Philippe a donc décidé de saisir l'inspection générale de l'administration. Cette nouvelle enquête va servir à mieux comprendre le déroulé de la nuit, mais aussi les conditions d'organisation de l'événement par les pouvoirs publics, mairies et préfectures, ainsi que les organisateurs privés. En clair, le gouvernement veut faire toute la lumière sur cette nuit-là. Cette enquête dira par exemple si le préfet a une part de responsabilité, quels sont les ordres qu'il a donnés aux policiers pour arrêter la musique. Pourquoi a-t-il autorisé, en accord avec la municipalité, la tenue de ces concerts en bord de Loire, une zone dangereuse compte tenu de la proximité immédiate du fleuve et du risque de chute dans l'eau ? Les conclusions de ce rapport de l'inspection générale de l'administration seront rendues publiques dans un mois environ.
Et il devait y avoir un rassemblement aujourd'hui à Nantes, samedi, et ce rassemblement a été interdit, mais il y a d'autres rassemblements dans d'autres villes de France aujourd'hui. Le rapport de l'IGPN est désormais au cœur d'une polémique, d'un débat, d'une discussion, parce qu'il semble y avoir des manques. Un témoin important n'y est pas, par exemple, semble-t-il, selon Mediapart, et les CRS qui sont intervenus après ces opérations n'ont pas non plus été entendus. Quel regard portez-vous sur cette affaire qui est sensible, comme on dit?
Oui, je ne vais pas me prononcer sur les faits, parce que j'ai aucun élément particulier là-dessus. Ce qui m'inquiète, c'est surtout, c'est qu'il faille faire suivre un rapport par une instance qui, a priori, est aussi importante que l'IGPN, par un autre rapport. C'est plutôt ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est effectivement de savoir si une instance comme l'IGPN peut contrôler ou pas, de façon distanciée, la police nationale. Est-ce que un corps comme la police nationale peut avoir une inspection qui vient de son propre intérieur, si je puis dire, d'elle-même? C'est plutôt ça qui me la question. Sur la question des événements, je pense que l'enchaînement des faits est probablement très compliqué à mettre en évidence. Il est clair qu'il y avait une fête, qu'elle devait être interrompue, qu'elle n'a pas été complètement interrompue, qu'à ce moment-là la police est intervenue et que la position des uns et des autres était très crispée. Probablement
avec des gaz lacrymogènes à un endroit où la Loire coulait, en fait, sur des quais, et la Loire de Nantes n'est pas la Loire de Tours ou d'Orléans. Oui. Allez, c'est un fleuve, véritable fleuve avec un courant fort.
Et quand on voit les images qui ont été tournées par des vidéos amateurs, on voit effectivement que à plus d'un moment, des jeunes crient « il y a des gens dans la Loire, il y a des gens dans la Loire ». Est-ce que à ce moment-là, la police est intervenue pour aller repêcher les gens dans la Loire ou pas? Est-ce qu'elle s'est contentée de répondre aux jets de projectiles? Moi, j'ai pas d'éléments là-dessus. Ce qui me frappe surtout, c'est que l'État français ne soit pas capable, avec son inspection générale de la police nationale, d'établir la réalité des faits de façon acceptable pour l'ensemble des parties et qu'il faille aller chercher une autre inspection, l'inspection générale d'administration, pour le faire. C'est simplement ça qui m'inquiète.
Mais ce qu'ont noté les observateurs, Yann, c'est que le Premier ministre, Édouard Philippe, a pris la parole quasiment immédiatement après la révélation de la découverte de ce corps, le lundi, et de l'identité du corps, le mardi.
Oui, et c'est lui qui a pris,
avec
pris la parole.
Avec son ministre de l'Intérieur derrière.
C'est pas Christophe Castaner, ce ministre de l'Intérieur, qui est habituellement pourtant quelqu'un d'assez disert et qui, en l'occurrence, a été, si j'ai bien compris, plutôt discret. Il faut que la lumière soit faite sur les événements. C'est totalement inacceptable qu'un jeune homme meure lors d'une fête de la musique, et c'est très peu acceptable qu'on dise il est mort parce qu'il ne savait pas nager, il aurait dû savoir nager. Non, ça c'est pas un argument recevable pour qui que ce soit.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire à la page Une semaine d'actu de Facebook aussi. Et je salue comme chaque semaine quelques auditeurs qui nous écoutent sur le continent africain. Un bonjour aujourd'hui à Mariam, à Bamako, au Mali. Bonjour à Adama, un fidèle à Garang, qui habite dans la région de Fatick, au Sénégal. Bonjour à Babacar, à Dakar, au Sénégal aussi. Un salut à Goni, Goname, à N'Djamena, au Tchad, à Malal, à Nouakchott, en Mauritanie, à Eli, à Lomé, au Togo. Un salut à Emmanuel Alexandre, à Conakry, en Guinée, où il travaille à la faculté de médecine et de pharmacie, sans oublier les clubs RFI de la RDC, et Zachary Yaou Amadou Dawa, qui écrit ceci: bonjour Pierre-Edouard, bonjour RFI, merci pour l'émission, mais malheureusement, je ne peux suivre cette émission en direct, car le signal RFI s'est interrompu ici à Maroua, au nord du Cameroun, depuis plus d'une semaine. En attendant, est-ce qu'on peut podcaster l'émission ou la réécouter, se demande-t-il. Oui, vous pouvez l'écouter sur le site ou en tapant Une semaine d'actu sur votre moteur de recherche préféré, et vous allez retrouver, j'en suis sûr, la FM très bientôt.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons partir pour l'Afrique maintenant, Yann, un continent que vous aimez. Alors dans un instant, nous allons faire un point complet sur la situation politique à Kinshasa, plus de 6 mois après l'élection à la présidence de Félix Tshisekedi, avec Florence Maurice, notre correspondante à Kinshasa, qui était avec nous dans ce studio. Mais auparavant, partons pour la Mauritanie, qui a donc tourné la page après 11 années passées au pouvoir à la faveur d'un coup d'État et de 2 élections. Mohamed Ould Abdel Aziz a quitté le pouvoir jeudi. Mohamed Ghazouani lui succède. À Nouakchott, reportage de Salem Mechbourg.
La cérémonie d'investiture s'est déroulée au palais El Morabeton à 35 km au nord de Nouakchott. La passation de pouvoir a été marquée par un échange de discours entre le nouveau président et l'ex-chef de l'État. Mohamed Ould Abdel Aziz a passé en revue ses réalisations à la tête du pays durant 11 ans. L'ancien président a mis l'accent sur la bonne gouvernance.
La bonne gouvernance était une option dès le départ. Elle s'est traduite par une saine gestion des biens publics. Elle nous a permis de stabiliser notre État sur le chemin du développement durable. Nous avons initié et mis en œuvre plusieurs grands projets structurants dans divers domaines, ce qui a transformé profondément la physionomie du pays sur les plans économiques et sociaux, contribuant ainsi à l'amélioration considérable des conditions de vie des populations.
Dans sa première prise de parole en qualité de chef de l'État, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani s'est voulu rassembleur et au service de tous les Mauritaniens.
Je serai le président de tous les Mauritaniens, quelles que soient leurs divergences d'opinion politique ou leurs choix électoraux. Je mesure l'importance de la plus haute fonction que le peuple mauritanien vient de me confier, Ce choix me conforte dans ma détermination à œuvrer sans relâche pour bâtir un État fort, émancipé et solidaire.
Après la passation de pouvoir, on attend désormais la nomination du directeur de cabinet du chef de l'État, un nouveau Premier ministre et la démission du gouvernement en vue de la mise en place d'une nouvelle équipe.
À suivre évidemment dans nos journaux et sur le site de RFI, www.rfi.fr. Le Soudan, maintenant, quatre manifestants ont été abattus lors d'un rassemblement à Omdurman, ville voisine de la capitale, Khartoum, selon des médecins, quelques heures avant la reprise jeudi soir des négociations entre militaires et la contestation pour régler les points en suspens d'un accord de transition, le fameux accord de transition, Laure Broulard, hier.
Les quatre manifestants ont été tués par balles, portant à 12 le nombre de victimes cette semaine. Le comité des médecins parle également de plusieurs blessés. Les Soudanais étaient sortis par milliers dans différentes villes du pays hier pour protester contre les violences de lundi dernier. Des tirs à balles réelles avaient alors fait 8 morts et plus de 60 blessés parmi les manifestants. De nombreux Soudanais accusent les paramilitaires des forces de soutien rapide et demandent à ce que les coupables soient poursuivis en justice. Mais alors que la junte militaire annonçait avoir arrêté des membres des RSF suspectés d'être à l'origine des tirs de lundi, la manifestation d'hier a été une fois de plus réprimée dans le sang. Ces nouvelles violences risquent de compliquer un peu plus les négociations entre les militaires au pouvoir et la contestation. Les deux parties avaient annoncé hier reprendre les discussions dans le but de finaliser certains points de l'accord de partage du pouvoir conclu le 17 juillet. Des discussions déjà plusieurs fois suspendues et reportées suite à la mort de manifestants.
À suivre également dans nos journaux. J'ajoute que le procès de l'ex-président soudanais El-Béchir s'ouvrira finalement le 18 août prochain. Selon son avocat, la première audience était initialement prévue pour mercredi dernier, mais Omar El-Béchir n'a pas comparu pour des raisons de sécurité, d'après sa défense. La Mauritanie et son nouveau président, Yann, vous inspire un commentaire ?
Je pense que ça va pas être facile pour le nouveau président de se débarrasser de l'ombre de l'ancien, qui, si j'ai bien compris, a fait savoir qu'il avait l'intention de rester
toujours un peu là, oui.
Très impliqué dans la politique. C'est toujours très embêtant. Dans ces cas-là, il y a deux solutions. La solution Poutine-Medvedev, c'est-à-dire qu'effectivement, celui qui a le vrai pouvoir, c'est l'ancien, ce qu'on avait vu au moment où Medvedev était président et Poutine Premier ministre. Et puis l'autre solution, c'est le dauphin qui finit par se débarrasser assez vite de son encombrant parrain. Ça s'est vu dans beaucoup d'autres endroits. Et en général, ça passe régulièrement par des procès pour des affaires de corruption qu'on découvre opportunément tout d'un coup. Je ne sais pas si ce sera le cas en Mauritanie.
Alors, il faut aussi noter de nouveaux raids du groupe de l'État islamique dans le nord-est du Nigeria, à Baga exactement, contre une caserne sur les rives du lac Tchad. Lac Tchad qui est de plus en plus une zone, là aussi j'emploie le mot, sensible.
Oui, bien sûr, parce que d'une part, Boko Haram s'est scindé en deux branches, une effectivement qui s'appelle l'État islamique en Afrique de l'Ouest, et puis l'autre qui est l'ancienne branche de l'ancien patron Aboubakar Shekau, et qu'effectivement ça touche non seulement le Nigeria, mais aussi le Tchad, mais aussi le Niger, et que ce sont des groupes extrêmement compliqués à contrôler, qui en général trouvent refuge dans des zones qui sont difficiles d'accès, des îles, etc. Donc effectivement, oui, c'est une zone des plus sensibles.
Nos auditeurs nous vous saluent, Yann, vous avez également votre fan club. Et je voudrais avoir une réponse plutôt à la question, à la visite du président indien en Afrique de l'Ouest, Bénin, Gambie et Guinée, nous rappelant par là même que l'Inde joue aussi un rôle en Afrique, sur le continent africain.
Jusqu'ici, l'Inde a plutôt joué un rôle en Afrique, dans les pays d'Afrique de l'Est, où il y a des communautés importantes d'origine indienne, je pense, tout l'océan Indien, l'Ouganda, etc. Effectivement, si l'Inde commence à s'intéresser davantage à l'Afrique de l'Ouest, c'est probablement, enfin c'est une hypothèse en tout cas, parce que la Chine y est de plus en plus présente et qu'il n'y a pas de raison que l'Inde n'essaie pas de profiter aussi des opportunités d'affaires dans des pays où il y en a éventuellement. Il y a une influence ancienne un peu plus culturelle de l'Inde qui est à travers le cinéma indien. Je me souviens, j'avais découvert il y a quelques années, avec grand étonnement, qu'il y avait des troupes au Sénégal de gens qui faisaient des danses Bollywood, parce qu'effectivement, ils regardaient beaucoup le cinéma indien. Je pense qu'on est bien au-delà des affaires maintenant, de ces affaires-là. On est vraiment plutôt sur le business.
Sept jours en Afrique.
Vous écoutez RFI, vous avez raison, et notamment une semaine d'actualité. Nous allons prendre le temps de parler de la République démocratique du Congo, faire un point en quelque sorte avec Florence Maurice. Bonjour Florence Maurice.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver dans ce micro. Vous êtes spécialiste de ce pays, les auditeurs le savent. Vous êtes notre correspondante à Kinshasa. Et avec vous, nous allons faire le point. Je joute aussi que vous avez un fan club, semble-t-il, parce qu'un de nos auditeurs qui habite Brazzaville nous dit « Elle est formidable, Florence ». Je ne vais pas vous demander une réaction à cette...
Je le salue, évidemment.
Mais vous avez votre fan club. Alors, nous allons parler politique dans un instant, mais revenons d'abord sur la mort d'un deuxième malade d'Ebola à Goma, grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo que vous connaissez. Cela suscite bien sûr l'inquiétude de la population, des populations de la région face à une épidémie qui défie les professionnels de santé depuis un moment maintenant. Dans la province voisine du sud Kivu, 15 personnes ont été mises, elles, en quarantaine dans une localité riveraine du lac Kivu. C'est la première fois que des cas suspects d'Ebola ont été recensés dans cette province, semble-t-il. Alors, face à cette situation, la stratégie de vaccination des autorités a évolué. Reportage à Beni de Patient Ligodi.
Sur cette avenue du quartier Kandjoli, plusieurs cas confirmés d'Ebola ont été recensés. En plus de la sensibilisation, une équipe de vaccination a décidé de se déployer ici et a ouvert la couverture à une plus grande cible. Docteur Gaston Chapenda, coordonnateur de la riposte à Beni.
Là où il y a beaucoup de chaînes de contamination, c'est-à-dire nous allons au-delà de la première cible qui est le contact de contact. Et maintenant, nous sommes pratiquement en train de vacciner par cellule.
Sur le terrain, Dr Justice Ntsio, coordonnateur de la riposte à Butembo, de passage à Beni, explique qu'aujourd'hui, les équipes du ministère de la Santé peuvent également s'appuyer sur un consentement collectif des personnes à vacciner.
Avant, une équipe dépassait difficilement 60 personnes vaccinées par jour avec les consentements collectifs. Donc, nous atteignons 200-250 personnes vaccinées par jour. Donc, ce qui nous fait gagner en temps et nous permet à réduire un peu la vitesse de propagation de la maladie.
Pour ce faire, Dr Gaston Chapenda souhaite une plus grande collaboration de la communauté.
Si nous avons 100% de collaboration avec toutes les parties prenantes communautaires, mais en un mois on a maîtrisé, on arrête.
Puisque lors des précédentes épidémies, la vaccination est présentée ici par les acteurs de terrain comme un pilier majeur de la riposte contre Ebola.
Ebola qui est une des grandes menaces aujourd'hui en République démocratique du Congo, qui suscite une grande peur dans la population, Florence Maurice.
Oui, qui suscite une grande peur dans la population, après qui reste quand même circonscrite à l'est du pays, et qui, je le rappelle comme ça parce qu'on a parfois tendance à l'oublier, fait moins de morts que la rougeole, moins de morts que le paludisme, peut-être aussi moins qu'un certain nombre de violences armées, mais qui en tout cas inquiète énormément au Congo et maintenant au-delà des frontières aussi, et qui à juste titre bien sûr suscite une grande mobilisation.
J'ajoute que le Rwanda a fermé sa frontière avec la RDC, et un de nos auditeurs qui s'appelle...
Elle a été rouverte depuis.
Elle a été rouverte et Isiaga Yansané, qui nous écoute à Conakry, se demandait pourquoi le Rwanda avait attendu tant de temps pour fermer sa frontière qui est réouverte aujourd'hui. D'ailleurs, de dire que le Rwanda ne fait pas très attention à ce qui se passe en RDC.
Si, le Rwanda prend très au sérieux ce qui se passe au niveau de l'épidémie à Goma. Ils ont déjà entamé un travail de préparation de leur côté depuis longtemps. Ils ont vacciné des personnels de santé, ils ont formé des gens. Il y a des contrôles sanitaires qui ont lieu aux frontières qui ont été renforcés. Simplement, il faut bien comprendre, le Goma, Gisenyi, qui est la ville frontalière, de l'autre côté Rwanda, ce sont vraiment véritablement des villes jumelles. Il y a énormément de Congolais, notamment, qui habitent à Gisenyi, qui travaillent à Goma. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui traversent chaque jour. Les deux pays sont très dépendants de ces échanges commerciaux. Une fermeture de la frontière serait une très mauvaise nouvelle pour les Congolais. Et d'ailleurs, lorsque l'OMS a déclaré Ebola épidémie d'urgence mondiale, ils ont bien pris soin de demander même aux Rwandais de ne pas fermer leurs frontières, notamment parce que la crainte, c'est que les frontières sont des points où on peut contrôler sanitairement les personnes qui vont et viennent, tandis que les gens ayant besoin de traverser la frontière, si on la ferme, ils vont être tentés de passer de façon illégale, et alors là, on va perdre tout contrôle sur les mouvements de population.
Alors une autre question qui va nous permettre de faire la transition avec la situation politique en RDC, une question de Raoul, qui vit d'ailleurs en République démocratique du Congo, il nous demande ceci, est-ce que l'absence de gouvernement a de l'influence sur la campagne de riposte contre Ebola.
Alors, il y a eu quand même une continuité de ce côté-là, puisque le ministre Ilunga, qui était en poste jusqu'à la semaine dernière, a continué à assurer le travail qu'il avait débuté sous le président Kabila. Donc, pas directement. Là, on est en revanche aujourd'hui dans une période de transition, puisque la présidence de la République a repris la main sur la riposte, que le ministre a démissionné, et que il y a le docteur Jean-Jacques Muyembe qui a repris la main. Et là, voilà, tout est en train de se remettre en place, ce qui a pu à un moment donné créer des ruptures. Mais il y a eu en revanche effectivement des perturbations liées notamment à des problèmes de salaire. Il y a eu énormément de personnel ou bien de centres de santé locaux pas directement impliqués dans la riposte à Ebola, ou bien des gens chargés de s'occuper des patients d'Ebola qui ont fait grève pour des problèmes de non-versement de salaire, non-versement de primes. Et toute rupture dans l'organisation de la riposte à Ebola est dramatique, parce que ça veut dire que même si c'est quelques jours, pendant quelques jours, on arrête de suivre les personnes qu'on considère à risque pour voir si elles développent les symptômes de la maladie. On perd la main sur des personnes qu'on doit absolument suivre pour vérifier qu'elles ne développent pas les symptômes. Donc il y a eu des défaillances au niveau du ministère.
Alors parlons de politique maintenant. Vous suivez ça de très près à Kinshasa, Florence. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire un premier, j'allais dire un primo bilan de l'action de Félix Tshisekedi, élu au début de l'année? Vous avez suivi ça avec attention. Vu de loin, on a l'impression qu'il y a un certain attentisme. Est-ce que le nouveau président peut développer déjà des actions? On parlera du gouvernement dans un instant.
Alors, c'est peut-être un peu tôt pour dresser un bilan, mais effectivement, ce qu'on peut observer, c'est est-ce que oui ou non, il y a eu une rupture depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Regardons les faits. Il y a eu, du point de vue des droits de l'homme, il y a eu des libérations de prisonniers politiques emblématiques, il y a eu une certaine ouverture dans les médias, il y a eu des opposants emblématiques aussi qui ont pu rentrer en RDC. Ça a été la première phase, mais on a aussi observé depuis, petit à petit, un certain resserrement avec toujours des arrestations de membres de mouvements citoyens. Régulièrement, la Lucha se fait arrêter. La télévision d'un opposant qui a été fermée, qui vient de rouvrir, mais qui a été fermée plusieurs semaines, sans même d'ailleurs qu'on sache très bien d'où vient l'ordre, dans un flou assez total. Il y a eu plusieurs manifestations qui n'ont pas pu avoir lieu. Il n'y a pas d'avancée judiciaire pour les crimes commis sous l'ère du président Kabila. Voilà, donc c'est assez nuancé. Ensuite, d'un point de vue politique, vous l'avez évoqué à l'instant, oui, attentisme, parce que 6 mois après, on en est seulement aujourd'hui à avoir, depuis quelques jours, l'ossature du gouvernement, mais il n'est toujours pas en place.
Alors, ce gouvernement va être visiblement, et c'est déjà l'objet de polémiques, on l'a entendu ces derniers jours, grâce à vous, notamment sur l'antenne, c'est sa taille. Énorme gouvernement.
65 postes ministériels, oui. Alors, c'est énorme. C'est plus que le précédent gouvernement qui en comptait 58.
Et certains disaient, j'entendais des voix d'opposants qui disaient que ça allait mobiliser l'essentiel du budget de la République démocratique du Congo.
La CAJ, l'Association pour l'accès à la justice, pense qu'une fois que tous les cabinets seront mis en place, les frais de fonctionnement pourraient absorber la moitié du budget de l'État, ce qui est évidemment énorme. Éléphantesque, budgétivore, c'est tous les mots qu'on a entendus ces derniers jours. Surtout, c'est pas du tout ce qu'avait promis le président Tshisekedi, qui d'ailleurs, au début des négociations, refusait d'aller au-delà de 50 postes ministériels, parce qu'il savait très bien que c'était un mauvais signal à envoyer à la population, qui a besoin que l'argent soit consacré au développement du pays, et qui a besoin de rompre avec cette image d'une classe politique qui est là essentiellement pour accaparer les ressources publiques.
Alors un gouvernement avec un dosage politique extrêmement fin, extrêmement calculé, vous nous l'avez dit aussi, entre les différentes composantes.
Oui, alors ça a été l'objet évidemment d'énormes négociations. Pour comprendre, il faut voir que donc le nouveau président Tshisekedi n'a pas la majorité au Parlement. Il aurait pu se lancer dans une cohabitation. Il a décidé de faire une coalition avec l'ancien président Kabila. Mais simplement, à l'Assemblée, il est largement minoritaire. Et au départ, la coalition du président Kabila, l'ancien président Kabila, souhaitait que il a 20% à peu près des sièges au Parlement, un peu moins, que ça soit que ça se reflète dans la composition du gouvernement. Donc il a quand même obtenu 35-40% des postes ministériels, ce qui est un peu plus que ce qu'il pouvait espérer au départ. Simplement, vont lui échapper un certain nombre de postes stratégiques, et notamment dans le secteur économique, puisque l'ancien président Kabila va conserver la main sur le ministère des Mines, sur le ministère des Finances, qui sont considérés comme les plus stratégiques dans la gestion de l'argent public. Et on sait que Tshisekedi est très attendu, notamment par ses partenaires américains, sur sa capacité à lutter contre la corruption. Et voilà, ça inquiète un petit peu les observateurs aujourd'hui, même si du côté du président Kabila, on fait valoir qu'on a réussi à obtenir un certain nombre de garde-fous. Ça pourrait être la présidence de la Banque centrale, ça pourrait être un certain nombre de nominations, mais on attend de voir encore aujourd'hui.
Alors j'ai un auditeur, Félix Kabena, qui vient de nous écrire. Il nous écrit de Chikapa au Kasaï, en République démocratique du Congo. Donc, selon les indiscrétions, les informations, le FCC de Kabila prendra la défense, les finances, la justice et les mines. Si jamais ces infos s'avéraient vraies, écrit-il, le président Félix peut dire adieu au soutien de la population qui lui faisait encore confiance.
Oui, alors
ça n'engage que lui.
Je laisse à cet auditeur la responsabilité de ses propos. Bon, c'est pas non plus une énorme surprise. Il aurait été très étonnant que l'ancien président Kabila laisse totalement les rênes. Voilà, je rappelle qu'il est, il a 80%, plus de 80% des sièges à l'Assemblée nationale. Maintenant, ça va être dans leur capacité à travailler ensemble, à négocier, que ça va se jouer.
Yann Mince, vous vouliez poser une question à Florence Maurice.
Oui, vous disiez tout à l'heure que pour certaines arrestations, on ne savait pas très bien d'où venaient les ordres ou d'où venait l'ordre d'arrestation. Donc, ma question, c'est de savoir si effectivement, au vu de ses pouvoirs constitutionnels, institutionnels, est-ce que le président Tshisekedi a les moyens de changer, en gros, les patrons de l'armée, des services de renseignement, les gouverneurs des régions militaires, etc., qui, pour beaucoup, datent de l'époque Kabila, et pour un certain nombre, sont probablement des proches de Kabila. En gros, est-ce qu'il peut faire un peu le ménage dans l'ensemble des corps habillés, comme on dit en Afrique, ou est-ce que c'est trop compliqué, justement, à cause de ce que vous disiez, du fait qu'il ne contrôle qu'une petite partie, une partie minoritaire, en tout cas, du Parlement?
Alors, c'est d'autant plus important que, avant l'élection, l'ancien président Kabila avait bien pris soin de procéder à des nominations à des postes clés pour garder des gens qui lui sont fidèles. Sur le papier, oui, en tant que président, Félix Tshisekedi est le chef des armées, donc peut procéder à un certain nombre de nominations, mais évidemment, la question c'est celle du rapport de force politique et de l'entente au sein de cette coalition. On peut regarder les faits. A tout de même été écarté l'ancien patron des services de renseignement, personnalité très critiquée. Je pense que symboliquement, c'était pas possible de le conserver, mais le nouveau président a décidé de confirmer dans ses fonctions le chef d'état-major. Dans l'Est, qui concentre un peu l'attention, puisque c'est là que les soupçons de complicité entre l'armée et les groupes armés locaux sont les plus importants. Il avait, lors de son premier déplacement à Beni, promis de relever de leurs fonctions les hauts gradés, notamment en poste depuis trop longtemps, de poursuivre ceux dont on sait, selon plusieurs rapports, qu'il y a des complicités avec des groupes armés. Pour le moment, il ne s'est rien passé. Après, voilà, il faut voir le contexte. On est dans un contexte de négociation très difficile sur la formation du gouvernement. Le président Tshisekedi n'a probablement pas envie d'envoyer des signaux trop inquiétants à son partenaire pour arriver à obtenir les postes qu'il veut obtenir. Et il est dans une stratégie de long terme. La question qui se pose, c'est est-ce que le temps qui va passer va lui permettre d'élargir sa marge de manœuvre ou au contraire, la resserrer. Et là, voilà, on a des signaux inquiétants. On peut prendre juste un exemple. Lorsque le président Tshisekedi a voulu nommer à la tête de plusieurs entreprises publiques des gens qui lui sont fidèles pour essayer d'avoir un petit peu un droit de regard sur les circuits financiers, lutter contre la corruption, il y a eu tout de suite une levée de bouclier du côté de l'ancien président Kabila, au point que ça entravait les négociations. Et aujourd'hui, les décrets qui doivent permettre véritablement l'installation de ces personnalités à la tête d'entreprises publiques ne sont pas appliquées.
Merci Florence Maurice, vous allez continuer à suivre ce dossier congolais, vous allez retourner bientôt à Kinshasa, on vous écoutera avec grande attention sur RFI et dans cette émission en particulier. Merci Yann Mince, spécialiste des questions internationales au magazine Alternative d'économie, on se retrouve à la rentrée.
Hein, avec plaisir.
On continue les bonnes habitudes, hiver comme été, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, etc., etc. Et on vous retrouve donc de toute façon dans quelques semaines, et c'est Chantal Leroux qui vous proposera l'émission durant le mois d'août. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous retrouvons demain pour la première de nos trois nouvelles diffusions d'idées en août. Et nous vous proposerons une émission sur Saint-Exupéry qui, je l'espère, saura vous dépayser. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.